Donc je reviens à soutenir Manuel Zapiro qui a travaillé dans la commission pendant plusieurs années, qui est un expert de la réglementation, surtout qui a travaillé sur des changements institutionnels. Je vous ai dit un petit peu avant qu'il y avait des idées des changements au niveau des réseaux de réglementeurs. Manuel a été au cœur de ces débats, de ces changements. Et maintenant, depuis quelques mois, il est à ITER, donc il est à Barcelone. Manuel, merci d'être venu de Barcelone ici.
Se fait grosso modo par le Conseil et le Parlement. On est en pleine nomination des commissaires. représente la communauté européenne sur la scène internationale. Elle gère également le budget communautaire, je vais très vite. Et, last but not least, comme diraient les Anglais, elle est de plus en plus organisatrice de réseaux. Ce qui ne figure évidemment pas dans le traité, en tout cas pas sous cette formule-ci. Qu'est-ce que l'on entend par organisatrice de réseaux, à la fois au niveau politique, et là je me réfère à une compétence qui est moins traditionnelle que celle qui a été évoquée par Marc, à savoir la compétence de la Commission dans le cadre des OMC. Les OMC étant les méthodes ouvertes, en français elles moquent, les méthodes ouvertes de coordination. Donc tout ce qui a trait à la fois à l'économie, surveillance budgétaire, emploi, innovation, la Commission fait de la coordination, voire de l'étalonnage avec les États membres parce qu'elle n'exerce pas de compétences propres en tant qu'initiatrice. Proposition de législation. Organisation de réseau également au niveau administratif, et la Marc vous a évoqué tout à l'heure la restructuration du paysage administratif national avec la création et l'indépendance de certaines autorités de régulation nationale. Elle propose aussi, on le voit dans le secteur des communications, des télécommunications et dans le secteur de l'énergie, des autorités de régulation au niveau européen. Alors, est-ce qu'on peut discuter, qu'est-ce qu'on entend par régulation? Dans la plupart des cas, cette régulation se fait justement par la coordination de autorités de régulation nationale. Donc la Commission se place de plus en plus au cœur d'une constellation d'acteurs qu'elle contribue elle-même à créer et à émanciper des autorités publiques nationales. Et vous avez eu quelques exemples de ça dans la présentation qui a précédé. S'il n'y a pas de questions, je passe directement au cœur de mon propos, à savoir, oula, je ne sais pas du tout ce que je vais apparaître comme ça. Alors, ce qui devrait être un cercle prend des formes. Voilà, c'est bien de l'art. Le cycle de politique. Je vais suivre ce schéma conceptuel qui est fort utile pour les présentations. Comme vous le savez, tant au niveau national qu'au niveau européen, on suit différentes étapes hein, dans la conception de politique publique ou la conception en tant que puissance normative. Il y a d'abord une étape de conception, de développement de propositions, une étape décisionnelle et une étape qui est celle de l'exécution. Comment est-ce que là on a la chance d'avoir un silence? Au niveau européen, comment est-ce que cela se décline? J'ai rapporté le processus décisionnel. Utilisées ont d'abord été celles relatives au marché intérieur. n'est qu'à partir de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne que l'on pourra avoir une vraie politique, d'un point de vue juridique, une vraie politique énergétique européenne, y compris la question d'ailleurs de l'approvisionnement. Je pense que vous serez amené à y revenir dans le cadre de la présentation. Le traité permet donc à la Commission et surtout évidemment au Conseil et au Parlement de légiférer, d'adopter le Conseil et le Parlement conjointement aux décisions, les directives, les règlements, les décisions que Marc a évoquées au préalable dans le domaine de l'énergie, des télécoms, de la santé, que sais-je encore. Une fois que ces directives sont adoptées, elles vont prévoir la possibilité pour la communauté de continuer en quelque sorte à adopter des normes qui seront des normes d'exécution. Car il y a, et ça c'est malheureusement peu compris et peu connu par définition, deux types de normes d'exécution, les normes d'exécution au niveau national, et on se réfère par là surtout à ce que Marc a mentionné comme étant en gros les mesures de transposition des directives. Et vous avez également une exécution pardon, qui a lieu au niveau communautaire, qui est en fait l'adoption de règles complémentaires adoptées par les institutions, en l'occurrence la Commission, qui permettent une meilleure mise en œuvre, une meilleure exécution de l'acte législatif considéré. Je vous donnerai des exemples si le temps vous permet. Alors, je voudrais directement qu'on passe à la phase de développement pour que vous compreniez bien comment la Commission fonctionne. C'est un fonctionnement qui est très top-down. Je ne sais pas traduire en français. Descendante. Contrairement au bottom-up qui doit nous être ascendant. Une proposition de la Commission doit d'abord avoir été discutée avant d'apparaître. Par exemple, si vous prenez le paquet télécom de 2008 ou le paquet énergie de 2007, changement climatique ou énergie de 2012. Avant que la Commission fasse une série de propositions, elle doit s'assurer, et elle le fait, que les acteurs concernés, les acteurs de la société civile, les parties prenantes, mais également les acteurs institutionnels, y voient un intérêt. Et elle le fait évidemment pour des questions manifestes de légitimité. Dans le cas de l'énergie, par exemple, il y a d'abord eu, comme vous le savez peut-être, un Conseil européen, Hampton Court. Là, je vous parle d'énergie du côté développement durable et changement climatique, pas la libéralisation, qui a permis de donner certaines orientations. Mais la Commission elle-même débat un an et quelques avant de faire sa proposition de l'opportunité ou non de celle-ci lors d'un débat d'orientation organisé au collège, donc collège des commissaires, en principe en novembre. Suite à ce débat en février de l'année qui précède la proposition, la Commission publie ce qu'on appelle l'Annual Policy Strategy, la stratégie politique annuelle, où elle va en gros donner certaines lignes directrices, expliquer ce qu'elle compte faire, là en l'occurrence ce serait pour l'année 2009, en février 2008. Et sur cette base-là s'organise un débat structuré avec le Parlement et le Conseil, qui inclut également le débat autour du budget dont elle aura besoin pour s'acquitter des tâches qui correspondent aux priorités politiques qu'elle propose. Donc ça permet d'avoir en même temps le débat budgétaire et le débat autour des orientations stratégiques et politiques. Ce débat qui inclut également les acteurs économiques et sociaux débouche en novembre de l'année qui précède par l'adoption d'un programme de travail, le programme législatif et travail, l'acronyme étant CWLP, c'est Commission Work and Legislative Program, sur la base duquel elle va s'organiser. Donc toute proposition importante figurera dans ce programme et permettra à tous les acteurs concernés de s'organiser en vue de l'adoption par la Commission d'une proposition. Comment la Commission prépare-t-elle ses propositions? Alors, en gros, évidemment je résume, hein, parce que ça prend parfois des années, vous avez comme Marc vous l'a dit, les effectifs de la commission sont extrêmement limités, en particulier au regard de l'éventail des compétences qui sont octroyées au niveau communautaire et également du territoire communautaire qui, comme vous le savez, s'est considérablement accru au cours des 10 dernières années. Elle a donc cruellement besoin de faire appel à l'expertise extérieure et elle a pour ce faire différents modes, différents instruments que nous évoquerons par après. L'analyse d'impact est devenue un peu le passage obligé pour toute proposition de la Commission, on en dira tout à l'heure. La consultation interne permet à toutes les directions générales qui ont un intérêt légitime dans l'affaire d'être consultées, puisque la Commission doit, lorsqu'elle fait une proposition, le faire au nom de l'intérêt communautaire. Elle a donc une fonction d'arbitrage entre des intérêts publics qui peuvent être conflictuels. On voit bien les intérêts de l'industrie dont la DG Entreprise se fait l'écho, qui ne sont pas toujours en phase avec les intérêts de la DG Environnement. Enfin, la procédure d'adoption par le collège. Vous voyez que les niveaux d'intervention sont multiples, à la fois au niveau des services et au niveau politique, c'est-à-dire celui du collège. Je voudrais m'arrêter sur la consultation externe, parce que c'est quelque chose d'assez peu connu, de façon en tout cas systématique. Peut-être prendre un exemple pour illustrer mon propos. Changement climatique. Vous aviez, avant que le paquet législatif soit fait, c'est-à-dire adopté en janvier 2007, une consultation très extensive qui a été faite par la Commission de différents acteurs. Alors, comment est-ce que la Commission consulte les acteurs qui gravitent un petit peu dans l'orbite de celle-ci? En l'occurrence, elle l'a fait de façon très formelle, elle ne le fait pas toujours de cette façon, en publiant un livre vert, qui, comme vous le savez sans doute, est un petit peu un document de nature évoquée précédemment, qui pose une série de questions, pour ensuite décider quelle sera ou quelles seront les voies à suivre. Sur la base de ce livre vert et d'un questionnaire qu'elle a donc mis sur Internet, vous avez. La Commission a reçu 200 contributions de différents acteurs, à la fois issus donc, du monde de l'entreprise, des fédérations d'entreprises, des entreprises en tant que telles, des ONG, des municipalités. Non. Je vais revenir en arrière. Et que sais-je encore? Elle a également organisé des auditions, ce qu'elle fait très souvent. Vous avez peut-être vous-même participé plusieurs fois à des auditions de la Commission. Dans ce cas-là, elle avait organisé une audition, avec plus de 500 acteurs, qui permet à la Commission d'avoir un éventail très large d'intérêts représentés. L'inconvénient des auditions, évidemment, c'est que vous avez peu de dialogue structuré qui se met en place. Contrairement, et je viens au troisième mode de consultation, au groupe d'experts. En tout, alors, je ne sais pas si ça a été évoqué auparavant, vous avez autour de 1200 à 1300 groupes d'experts de la Commission qui réunissent à la fois la société civile et les États membres, qui permettent à la Commission de prendre la température avant de faire des propositions, de soumettre à la délibération de scientifiques, de techniques, mais également de régulateurs nationaux. Vous avez de plus en plus de groupes d'experts qui sont des groupes de régulateurs nationaux qui interviennent à la fois en amont et en aval. Tout cela permet à la Commission de résoudre un certain nombre de problèmes avec des acteurs qui se connaissent, qui se reconnaissent et qui se rencontrent de façon très fréquente. Ces groupes d'experts occupent beaucoup de gens à la Commission et beaucoup de gens également dans les États membres. Comme vous pouvez imaginer, 1300 groupes d'experts, c'est une entité familiale. Les agences, enfin, à la fois au niveau national et au niveau européen, la Commission a proposé la création d'une trentaine d'agences sur les 20 dernières années. Ces agences ont, je l'ai dit tout à l'heure, principalement un rôle de coordination, mais elles peuvent également avoir un pouvoir décisionnel. Et c'est le cas notamment, je pense que ce sera évoqué plus tard, de l'agence nouvellement créée en juillet de cette année, de coordination des régulateurs nationaux dans le domaine de l'énergie, qui a été créé en juillet et qui a une compétence décisionnelle en plus de compétences claires en termes d'organisation de réseaux de régulateurs nationaux. S'il n'y a pas de questions là-dessus, je passe. Consultation inter-services, donc tous les services ayant un intérêt légitime pour l'initiative sont consultés, avec en plus le secrétariat général qui est comme vous savez, et le secrétariat juridique qui sont, comme vous le savez peut-être, les services du président de la commission. Si la politique du personnel de la commission est directement affectée, la DG Admin sera consultée et la DG Budget s'il y a des incidences financières particulières. On arrive après toute cette période de consultation interne-externe menée par les services de la commission, l'administration de la commission, au niveau politique, où le collège, et c'est ce à quoi je me référais tout à l'heure en disant que le collège était, qu'on avait un fonctionnement collégial, le collège va dans son ensemble, en théorie à la majorité simple, en pratique, on n'est jamais passé au vote sous la présidence Barroso, le collège va adopter ses propositions législative, soit par procédure orale, ce qui est moins de 5% des cas, soit par d'autres procédures, la procédure écrite étant symptomatique de, en gros, silence ou abscriptation, c'est-à-dire si les commissaires ne se prononcent pas, c'est réputé adopté dans les 5 jours.
Participer aux auditions, participer sur
avant que l'analyse d'impact soit terminée. C'est un peu une aberration, mais c'est comme ça, la décision est in fine politique. Donc il faut aussi, sur la question d'opportunité, un contact avec la personne au sein du cabinet du commissaire qui s'occupe de ce dossier en particulier. Les dossiers du commissaire étant répartis selon les membres du cabinet, soit le dossier de la collégialité, soit les dossiers sectoriels. J'ai répondu grosso modo. Alors évidemment, pour la question spécifique de l'input, donc la contribution des autorités locales et régionales, vous avez également des relations qui s'intensifient entre la commission et le comité des régions, par lequel vous pouvez passer pour faire valoir vos vues, vos intérêts.
Oui. Mais à aucun moment, vous n'avez vu pas votre président du Conseil économique et social acquitté, vous n'avez à aucun moment mentionné le Conseil économique et social européen.
Alors, j'y venais, en fait, à la fois au comité économique et social et au comité des régions, parce qu'ils ont traditionnellement, ils interviennent traditionnellement dans le cadre de la seconde phase, qui est la phase législative. Une fois que la proposition est faite, ils sont consultés sur la base de cette proposition. Il est vrai, toutefois, qu'avec le comité économique et social et avec le comité des régions, la commission essaye, et c'est une demande très forte de ces deux organes, d'avoir des relations structurées avant même la proposition. Mais elles ne sont pas reconnues explicitement par le traité.
Parce qu'en tant que CESR, on répond quelquefois au niveau de
oui,
dans les réseaux transnationaux.
À l'instar de tous les autres acteurs, et notamment des acteurs de la société civile. On retrouve aussi des États membres qui répondent. Donc là, le CER et le CES sont logés un petit peu à la même enseigne que les autres acteurs. Ils n'ont pas une caractéristique spécifique dans le processus décisionnel. Mais la Commission essaye, notamment sur la question des analyses d'impact avec le CES, d'avoir des rapports plus importants, parce que l'impact économique est important, l'impact régional est quelque chose souvent négligé dans la préparation des propositions de la Commission, parce qu'il est très difficile pour elle d'avoir accès aux données. Donc, il y a une coopération qui s'installe. Mais elle est embryonnaire. Oui. Je vais conclure. en fait, en sortant, en vous sortant de, du côté de la dimension un peu aride du processus décisionnel, pour vous dire un mot de la façon dont la commission exerce ses compétences, celles qu'on a vues en début de présentation. Compétences de proposition et compétences de négociation, c'est-à-dire dans le cadre de la phase législative, la commission est clairement, malgré ce que Marc vous a dit, par rapport à il y a 15 ans ou 20 ans, elle est en retrait. C'est-à-dire qu'on propose beaucoup moins à l'heure actuelle, la commission, que l'on proposait, par exemple, au début des années 90. C'était un peu une période d'avalanche, de mise en œuvre du marché intérieur, mais grosso modo, vous avez 300 propositions faites par an par la commission contre 700 ou plus il y a 15 ans de cela. Et la commission s'auto-censure pas mal, ça correspond au credo du mieux légiférer dont vous avez peut-être entendu parler, avec une vérification d'application du principe de subsidiarité, proportionnalité, analyse d'impact, retrait des propositions qui ne sont plus d'actualité, simplification, codification et que sais-je encore. Et aussi allègement de la charge administrative qui joue un rôle très important dans le discours de la commission. Donc la commission est un peu en retrait par rapport à sa compétence d'initiative. Elle est en retrait aussi dans ses relations avec le Parlement et le Conseil. La plupart de la codécision se termine maintenant en première lecture et c'est la présidence, je résume à l'extrême, c'est la présidence qui joue de plus en plus le rôle de médiateur au détriment de la commission européenne. Vous l'avez peut-être expérimenté dans vos dossiers. Par contre, une sphère de décision qui prend de l'essor pour la commission, c'est la sphère exécutive, manifestement. Et là, la commission a plusieurs rôles à jouer. Elle joue, je l'ai dit tout à l'heure, un rôle de contrôle de l'application faite par les États membres du droit communautaire. Donc, est-ce que les États membres ont bien transposé? Est-ce qu'ils ont transposé de façon adéquate? Est-ce qu'il n'y a pas de délai de transposition? Est-ce qu'il n'y a pas des infractions sur le terrain? Etc. Et elle joue également un rôle important parce que c'est elle l'exécutif communautaire par délégation, autrement dit, c'est elle qui va adopter toutes les mesures d'exécution relatives aux actes législatifs que j'ai évoqués précédemment. Et ça, ce sont deux sphères, pour conclure, qui grossissent à vue d'œil. Bon, pour ce qui est du contrôle de l'exécution nationale, c'est assez évident. On a un acquis communautaire très, très vaste, plus de 2000 directives qui ont été adoptées, et chacune ont besoin entre 40 à 300 mesures de transposition pour les États membres. Vous avez une Union européenne à 27, donc la Commission doit surveiller tout ça. Vous imaginez bien qu'il y a un vrai problème de volume et d'engorgement, qui aussi, d'ailleurs, avec des répercussions sur la Cour de justice qui a son rôle à jouer. Sur l'exécution, vous avez de plus en plus de mesures d'exécution adoptées. Autour de 4000 mesures d'exécution sont adoptées par la Commission par an, contre les 300 propositions que j'ai évoquées précédemment. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. Voilà,
merci. Merci beaucoup, Manuel. Ça vous donne une analyse extrêmement précieuse de l'intérieur de la Commission, de quelqu'un qui a été impliqué à très haut niveau dans ces processus de décision. Je propose qu'on ait quelques minutes de débat, de questions, et puis vraiment 5 minutes de pause café.